Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est midi à Kinshasa, 13h à Goma au Nord Kivu. Voici les titres de ce journal. Les déplacés qui ont fui hier mardi les sites de Kanyarushinya à la suite des rumeurs sont en train de regagner les lieux depuis ce matin. Pendant ce temps, les autorités provinciales demandent à la population de Goma ainsi qu'aux déplacés d'être calmes et de faire confiance aux FARDC. Et puis, ce rappel du commissaire provincial de la police dans les Lualaba aux motocyclistes de ne pas exercer au centre-ville de Kolwezi. Pour le colonel Antoine Kitenge, c'est pour des raisons de sécurité, tant personnelle que pour celle de leurs clients. Jean Gandou. L'invité de ce journal est le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Christophe Lutundula nous parle de la problématique des mesures restrictives prises par le Conseil de sécurité de l'ONU face à l'approvisionnement en armes par la RDC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis tôt ce matin, les déplacés qui ont fui le site de Kanyarushinya à la suite des rumeurs sont en train de regagner les lieux. Pour le moment, les hommes s'attellent à refaire les abris car dans leur fuite, ils ont pris leurs bâches. Ceux qui ont fini la réfection des abris essaient d'arranger le petit espace à l'intérieur pour que les membres des familles s'y retrouvent. Rosalie Zawadi revient du site.
Une vieille dame ramène des herbes fraîches pour aménager l'espace sur lequel elle va se coucher. Aujourd'hui, c'est comme si elle reprenait sa vie des déplacés après avoir fui dans la précipitation mardi soir à cause des rumeurs qui faisaient état de l'avancée des rebelles. Sa voisine qui est à côté n'a rien pris dans cette nouvelle fuite.
Nous avons fui hier et le peu d'effets que nous avons laissés ici, de ce que nous avons reçu comme don, les voleurs les ont encore dérobés. Moi et ma famille, nous avons fui vers Birere à pied par manque des moyens de transport. À notre retour, nous nous sommes débrouillés pour trouver comment passer la nuit sous toute cette pluie.
Le ministre des Affaires humanitaires, Modeste Mutinga, qui a visité ce matin certains déplacés qui se réinstallent, ne cache pas son émotion devant une mère qui essaye de préparer un peu à manger pour son enfant.
Oui, dans quelles conditions on peut se trouver avec un enfant? C'est tout ce qu'ils peuvent avoir comme à manger. Quelques beignets.
Oui,
il y a une maman qui vient d'accoucher ce matin dans ces conditions-là.
Notons que les autorités provinciales demandent à la population de Goma ainsi qu'aux déplacés d'être calmes et de faire confiance au FARDC. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
En bref, toujours au Nord Kivu, au lendemain des affrontements de la journée d'hier mardi, la situation reste tendue ce mercredi dans les zones de combat opposant l'armée congolaise de rebelles du M23 dans la partie nord du territoire de Nyiragongo. Selon des sources proches de l'administration locale et de la société civile, les détonations ont été entendues dans la matinée entre les groupements Kibumba et Buhumba. Des sources concordantes affirment que l'armée a repoussé une énième tentative d'attaque des rebelles qui voulaient déborder par la colline Nyundo dans le groupement de Buhumba. Nos efforts pour obtenir la réaction de l'armée sur la situation sont restés vaines. En Ituri, pendant ce temps, les combats ont été signalés la nuit dernière entre les fronts patriotiques et intégrationnistes du Congo et les FARDC vers Sota dans les territoires d'Irumu. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, 2 miliciens ont été tués, plusieurs maisons incendiées et des vaches pillées par l'ennemi. Les autorités militaires demandent aux groupes armés de respecter leur acte d'engagement pour la cessation des hostilités. Des détails avec Isaac Remoyopé.
Selon des sources concordantes, un groupe de miliciens du FPIC progressait mardi dans la soirée vers la localité de Sota, à environ 50 km au sud-ouest de Bounia. C'était pour venger la mort d'un milicien qui serait tué dans cette entité. Les FARDC basés à Marabo ont été alertés pour stopper le mouvement de ces hommes armés. Selon les porte-parole de l'armée en Ituri, des miliciens ont été neutralisés pendant les combats entre les deux parties. Des sources locales déplorent également l'incendie des maisons et le pillage des bêtes par les groupes armés FPIC. Le gouvernement provincial demande aux leaders des groupes armés de l'Ituri de respecter leur acte d'engagement, mais aussi aux communautés locales de se liguer contre les ennemis communs qui sont les rebelles des ADF et du M23, le lieutenant Gilles Ngongo.
Nous profitons de l'occasion à interpeller tous les miliciens à caractère communautaire à la reprise de la conscience collective et de ne pas confondre l'ennemi. Notre ennemi commun, ce sont les ADF, les M23 soutenus par le Rwanda. Ce n'est pas nous-mêmes de s'entretuer.
Signalons que c'est depuis le week-end dernier qu'une tension communautaire s'observe dans cette entité où deux personnes ont été tuées au village de Kinyambogo et 17 maisons incendiées. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans le Mai Ndombe, le député national Willy Bolio, élu du territoire des Bolobo, vient de dénoncer les attaques ces derniers temps des embarcations sur le fleuve Congo dans le territoire de Kwamout par des assaillants armés. Le dernier cas en date est celui signalé dimanche dernier. Cet élu du peuple a indiqué que cette situation met en danger la navigation des Congolais sur le fleuve Congo. Il invite le gouvernement congolais à être aussi regardant face à la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays. Le point avec Irène Boma.
Selon le député national Willy Bolio, la situation sur le fleuve Congo dans son tronçon Kana jusqu'à Kwamout dans le Mai Ndombe devient de plus en plus catastrophique. Les navigants sont en danger parce que d'après lui, les assaillants armés qui ont déjà attaqué toutes les localités le long de ces fleuves attaquent maintenant les embarcations en pleine navigation sur les fleuves. L'élu du territoire de Bolobo qui alerte en appelle à l'attention du gouvernement congolais.
Les assaillants, leur objectif c'est d'avoir ces embarcations. Là, au moment où je vous parle, toutes les embarcations commencent à voyager du côté Congo-Brazzaville. Que devenir de notre bord? Parce qu'ils sont en train de tirer des armes locales de calibre 12. Ils ont attaqué des baleinières qui se rendaient au marché de Ndabengue. Heureusement qu'il n'y avait pas de mort d'homme. Et nous appelons le gouvernement à y faire vraiment attention parce qu'apparemment toute l'attention est allée vers l'Est. Mais ici, on est en train de négliger. Et le silence du gouvernement inquiète.
Tout en demandant à la population de cette partie de la province du Mai Ndombe de rester calme et vigilante, Willy Bolio invite les militaires commis à Kwamout à se déployer aussi le long du fleuve Congo pour sécuriser les voyageurs dans les embarcations. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
À Kolwezi, dans les Lualaba, l'actualité se les rappelle que le commissaire provincial de la police fait aux motocyclistes de ne pas exercer leurs activités au centre-ville. Nous en parlons avec notre confrère Jean Gandou qui est sur place à Kolwezi. Jean, bonjour, qu'en est-il exactement?
Bonjour Jean-Désiré Kanyama. Ce rappel a été fait hier par le numéro 1 de la police aux automobilistes à travers la presse. Pour le colonel Antoine Kitenge, les motocyclistes savent qu'il leur est interdit d'entrer au centre-ville pour des raisons de sécurité tant personnelle que pour celle de leurs clients. Il rappelle que plusieurs cas d'accidents ont été enregistrés dans la ville impliquant les motocyclistes et d'ailleurs, nombreux d'entre eux y ont perdu la vie. En outre, il est aussi interdit aux motocyclistes de transporter plus de deux enfants comme c'est le cas pour l'instant et aussi la pratique pour les motocyclistes qui consiste à transporter des sacs de minerais sur lesquels s'assoient les clients est aussi prohibé. Ces deux dernières mesures sont d'application sur toute l'étendue de la province du Lualaba.
Jean Gandou, comment les motocyclistes ont-ils accueilli ces mesures?
Dans leur milieu, les avis sont partagés. Pour les uns, leur demander de ne pas arriver au centre-ville, c'est leur demander de faire des longs détours pour atteindre les quartiers se trouvant au-delà du centre-ville, avec comme conséquence une probable révision à la hausse du prix de la course. En outre, pour ceux qui transportent les minerais, il n'y a aucun inconvénient à transporter aussi les passagers parce que ça leur permet de se déplacer en même temps que leurs marchandises. Pour les autres, ces décisions sont prises par les autorités. Il faut simplement les respecter et éviter d'engager tout bras de fer avec les autorités. Mais ils demandent aux décideurs de leur permettre de travailler au centre-ville les jours fériés car la circulation n'y est pas très intense. Voilà ce qu'on peut dire de ce dossier, Jean-Désiré Kanyama. C'était donc Jean Gandou à partir de la ville de Kolwezi dans le Lualaba. Au revoir.
Merci Jean Gandou, on y reviendra. Au sud Kivu, la circulation entre Bukavu et Goma est totalement coupée sur la nationale RN2 dans les territoires de Kalehe. Conséquence des fortes pluies qui s'abattent ces derniers temps. Les glissements de terre provoqués par les eaux de pluie ne favorisent pas le passage même des petits engins. Même situation sur la route nationale RN3. Les points avec Emmanuel et la Mejoa Kabedi.
C'est depuis 5 jours maintenant qu'il s'observe une coupure de trafic entre Bukavu et Goma sur la route nationale RN2. La route est totalement coupée en territoire de Calais, à l'endroit communément appelé chez les Français. Depuis, ce sont des dizaines de véhicules qui sont bloqués de part et d'autre. Pas de passage, même pour une moto simple. Toujours dans le territoire de Calais, la situation est la même sur la route nationale RN3 qui relie Bukavu à Kisangani en passant par Walikale. Monsieur Dédé Mwamba, administrateur de territoire.
Avec les dernières pluies, c'est totalement coupé et c'est impraticable. Il y a des endroits où, chez les Français par exemple, même une moto, c'est difficile de passer. Il y a des véhicules bloqués vers Namichonga, Makengere, Nyamasasa. En tout cas, les véhicules ne peuvent pas passer. Même la RN3 aussi, c'est foutu, côté Bunyakiri et Ombo. C'est-à-dire, même une moto, il y a des endroits où ça ne peut même pas passer.
Signalons que ces deux routes nationales, RN2 et RN3, restent d'une importance capitale pour la population du Sud Kivu. La plupart des humanitaires passent par là pour leurs activités dans le Nord et le Sud Kivu. Emmanuel Elamejwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Et puis, une hausse des prix des produits agricoles se fait observer dans les marchés de Matadi au Congo central. Au marché Minkondo, l'achat d'un sac de cossettes de manioc est passé de 90 à 120 000 francs congolais. Le président de ce marché attribue cette flambée à la rareté ces derniers temps des véhicules transportant des produits agricoles qui déchargent sur ce marché. Léon Zabolé indique qu'à la suite de la dégradation fort avancée des routes de dessertes agricoles, les propriétaires de bon nombre de ces véhicules ne veulent plus envoyer leurs camions transporter les produits agricoles. Les points avec Nana Plurich Mambou.
Lors de la saison sèche, plus de 6 gros véhicules remplis de produits agricoles dont des sacs de cossettes de manioc, les maïs et arachides, déchargés sur les marchés Minkondo. Depuis le retour des pluies, ces lieux de négoce est vide. Le véhicule qui transporte des produits agricoles se font rares, voire 3 en une semaine, a indiqué Léon Zabolé, président du marché. Selon lui, la dégradation des routes servant d'évacuation de ces produits étant accentuée par les eaux de pluie qui s'abattent presque tous les jours, ne facilite pas à ces véhicules l'accès aux différents greniers agricoles. La solution, selon le président du marché Minkondo, est la mise en exécution urgente du programme de développement à la base des 145 territoires. Léon Zabolé. Les propriétaires de véhicules ne veulent pas envoyer leurs véhicules transporter les produits agricoles à cause de la dégradation des routes. La vie est devenue difficile dans les villes, les prix des produits agricoles a flambé. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État de mettre en œuvre urgentement les programmes de développement à la base des 145 territoires pour améliorer le social des Congolais. Dans l'entretemps en Matadi, les prix de plusieurs produits agricoles ne fait qu'augmenter. Un sac de cossettes de manioc se vend à 120 000 au lieu de 85 000 francs et le prix d'un gros régime de bananes plantain quitte de 9 000 pour 20 000 francs. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Le monde entier a célébré hier mardi les 8 milliards d'habitants en République démocratique du Congo pour identifier les 8 milliardièmes personnes. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a sélectionné 3 provinces, dont notamment le Haut-Katanga, le Kassai-Oriental et Kinshasa pour recevoir la première naissance du 15 novembre 2022. Elle est née autour de 4h16 au centre presbytérien de Mbujimayi dans la commune de Dibindi, au Kassai-Oriental. Des explications avec Esther Ndalafina.
Toussaint Ilunga, bébé de sexe masculin, fils aîné d'une femme premier part, est parmi les 8 milliardièmes personnes de ce monde. Il est né le 15 novembre 2022 à 4h16 au centre presbytérien en Mbujimayi. Didier Yangi s'est chargé de la santé de la reproduction au Fonds des Nations Unies pour la population en Mbujimayi, était à la maternité pour recevoir cette première naissance. À cet effet, les cadeaux constitués des kits d'accouchement pour enfants, des kits de dignité pour la mère et la prise en charge de tous les frais de la maternité ont été présentés pour confirmer cette première naissance parmi les 8 milliards d'habitants. Surprise de cette donation, Rose Moulanga, mère de Toussaint Ilunga, n'a pas caché sa joie.
Je retrouve notre pour l'accouchement. L'accouchement s'est bien déroulé et l'enfant a trouvé tous ses présents. Baignoire, seau, couche, habits, couvre, poudre et même argent. Je remercie UNFPA pour ses dons.
Le commissaire général chargé du genre a souhaité la bienvenue aux nourrissons avant de remercier l'UNFPA.
Bébé Toussaint, nous t'accueillons et nous te souhaitons la bienvenue au monde. Nous disons quand même merci parce que c'est un plus que l'UNFPA apporte au niveau de la province.
Signalons que les chargés de santé de reproduction à l'UNFPA dans les provinces du Haut-Katanga, Kinshasa et Kassai-Oriental ont passé la nuit dans les maternités de leurs milieux respectifs. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
L'Assemblée nationale a débuté hier mardi l'examen du projet de loi portant l'impôt sur les sociétés et les revenus des personnes physiques et celui portant réforme des procédures fiscales. Après débat et délibération, les deux projets de loi devant entrer en vigueur en 2024 ont été déclarés recevables et envoyés à la commission ECOFIN qui a 7 jours pour toiletter ces textes de loi. Faisant l'économie du projet, le ministre des Finances a expliqué que le système actuel d'imposition a l'inconvénient de ne pas faire la distinction entre la fiscalité des sociétés et celle des personnes physiques. Raison pour laquelle, explique le ministre, cette réforme institue des impôts distincts, l'impôt sur les sociétés et celui sur les personnes physiques. Nicolas Kazadi est au micro de Michel Kifindangoy.
Pour préparer ce grand changement qui sera apporté par cette loi sous examen, j'ai instruit la Direction générale des impôts pour que, dès le mois de mars 2023, chacun des citoyens congolais qui perçoit des revenus salariaux soumis à l'IPR ait l'obligation d'en faire une déclaration. Ça sera le premier pas, la préparation au changement plus important qui interviendra en 2024. L'arrêté a été signé déjà. En 2023, chacun d'entre nous, nous devrons déclarer ce que nous avons reçu comme salaire et ce que nous avons payé comme impôt. À l'heure actuelle, cela est fait globalement. L'année prochaine, cela sera fait individuellement. Je sollicite votre collaboration pour que nous montrions au monde que nous sommes des citoyens responsables et que nous sommes conscients des exigences de changement pour davantage affirmer notre responsabilité.
Notez qu'à partir de 2024, si ces lois sont promulguées par le président de la République, l'État recouvrera désormais des revenus locatifs, des revenus des capitaux mobiliers et les revenus professionnels comprenant les rémunérations ainsi que les bénéfices et profits sur chaque habitant en République démocratique du Congo.
Actualité internationale.
Le sommet du G20 qui regroupe les pays riches et les grandes économies émergentes s'achève à Bali en Indonésie ce mercredi 16 novembre. Bien qu'absente de l'agenda officiel, la guerre en Ukraine a largement dominé les débats et un communiqué final a même été adopté.
L'invité
de ce journal est le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, nous parle de la problématique des mesures restrictives prises par le Conseil de sécurité de l'ONU face à l'approvisionnement en armes par la RDC. Christophe Lutundula est en entretien avec Michel Kifindangoy.
Christophe Lutundula, bonjour.
Bonjour.
Vendredi dernier, vous avez fustigé la difficulté pour la RDC de s'approvisionner en armes alors que l'embargo avait déjà été levé. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la RDC à s'approvisionner facilement en armes?
En tout cas, les mesures restrictives prises par le Conseil de sécurité de l'ONU, par ses résolutions 1596 de 2005 et 1807 de 2008, gênent énormément les efforts du gouvernement de la RDC pour refonder notre armée, la doter des instruments nécessaires à l'accomplissement de ses missions régaliennes et accroître sa force de frappe face aux groupes armés qui commettent des crimes abominables et créent l'insécurité à l'est de notre pays. Et cela est indiscutable, c'est l'évidence même. Quand bien même la résolution 2641-2022 du Conseil de sécurité venait de réduire la liste des types d'armes soumis à l'obligation de notification par les vendeurs d'armes à la RDC, il ne reste pas moins vrai que la suspicion et la méfiance qui pèsent sur notre pays continuent à hypothéquer sa crédibilité auprès des banquiers, des fournisseurs et armateurs qui hésitent à traiter avec lui pour ne pas dire qu'ils refusent de traiter avec lui. C'est injuste et ce n'est pas objectivement fondé à l'heure actuelle.
Nous l'avons tous suivi, hein. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a bel et bien affirmé que l'embargo sur les armes ne concerne que les forces négatives et le gouvernement congolais n'est pas concerné. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les livreurs aient toujours des difficultés d'acheminer les armes facilement jusqu'en RDC?
Disons brièvement qu'en 2004, le Conseil de sécurité a créé un comité de sanctions. Sanctions, en fait, qui étaient imposées aux groupes armés et évoluant au Congo et de manière générale à toutes les parties prenantes aux guerres que nous avons connues pendant cette période un peu avant. Évidemment, à l'époque, il était demandé au gouvernement de la République de soumettre tous les achats d'armes à l'autorisation préalable de ce comité de sanctions. Mais par la suite, il y a eu une évolution qui a fait que, à partir de 2008, l'obligation a frappé un peu plus durement les groupes armés. Il est resté seulement en ce qui concerne le gouvernement officiel de la République, l'obligation pour ceux qui nous vendent les armes et même ceux qui les transportent, dans une certaine mesure, de déclarer par une notification claire les types d'armes, des munitions, les quantités qui sont vendues à la République démocratique du Congo. Donc, c'est pas la République qui déclare, mais ce sont ceux qui lui vendent ces matériels de guerre. Et comme je venais de vous le dire précédemment, d'une manière ou d'une autre, nous sommes sur une liste qui n'est pas tout à fait propre et qui crée ce que moi j'ai appelé la suspicion. Ça nous pose quand même un problème qui n'est pas seulement psychologique, mais aussi politique et diplomatique quelque part.
Qu'avez-vous déjà fait de concret dans le cadre de la diplomatie pour que tous ces boucliers qui bloquent aujourd'hui la RDC à s'approvisionner facilement en armes soient complètement levés?
Sous la très haute autorité du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je viens de saisir le président du comité des sanctions de l'ONU, le représentant permanent du Gabon auprès de cette organisation internationale, qui a conduit la mission d'évaluation du comité des sanctions dans la région des Grands Lacs pour lui demander de recommander dans son rapport de mission au Conseil de sécurité de réhabiliter notre pays dans tous ses droits en tant qu'État souverain, notamment en levant toutes entraves injustes et sans raison objective au redressement de son armée et à la protection de son intégrité territoriale ainsi que de ses populations et des institutions constitutionnelles.
Et que recommandez-vous à la population congolaise pour que les manifestations politiques ne jouent pas en défaveur de la RDC?
Je demande par conséquent aux Congolais de ne pas verser dans la violence contre les institutions du système des Nations Unies et les partenaires extérieurs. Une telle violence, à l'évidence, ne pourra que desservir notre pays au profit de ses ennemis intérieurs et extérieurs. Il faut faire extrêmement attention aux extrémistes de tous bords qui ne cherchent qu'à créer la confusion, à perturber les choses pour finalement dire « voilà, ça vient décapoter ». L'appel à la vigilance, nous lancé par le chef de l'État, signifie aussi ne pas tomber dans les pièges des pêcheurs à nos troubles.
Christophe Lutundula, je vous remercie.
Merci.
C'était l'invité de ce journal, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, s'entretenait avec Michel Kifindangoy. Merci de continuer à réécouter ce journal sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.